résistance, seul moyen de vaincre les États-Unis, a souligné le leader de la révolution islamique lors de l'audience accordée au président vénézuélien. La 42e brigade des unités de mobilisation populaire Ashtal Shabi a déjoué un complot criminel du groupe terroriste Daesh pour cibler des civils dans le sud du gouvernorat de Saladin. Et législative française 2022, le taux élevé d'abstention, la défaite de l'alliance Macron. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l'Iran et le Venezuela avaient réussi à résister aux fortes pressions exercées par les États-Unis. L'expérience réussie des deux pays a montré que la résistance est le seul moyen de contrer ces pressions, a déclaré le leader de la révolution islamique lors d'une rencontre avec le président vénézuélien Nicolas Maduro en visite officielle à Téhéran. L'Ayatollah Khamenei a salué la victoire du gouvernement et du peuple vénézuélien dans une lutte acharnée contre les États-Unis et la guerre hybride et totale qu'ils ont menée contre Caracas et a déclaré « Votre résistance et celle du peuple vénézuélien sont précieuses car elles renforcent la valeur, le statut et les mérites d'une nation et d'un pays ainsi que ceux de ses dirigeants. » Saluant les progrès réalisés et les initiatives développées par l'Iran au cours de ces dernières années dans divers secteurs scientifiques et technologiques, le leader de la révolution islamique a déclaré que des mesures aussi importantes ont été prises dans des circonstances telles que les sanctions et les pressions les plus lourdes et sans précédent qui ont été imposées à la nation iranienne, que les Américains eux-mêmes appelaient « pression maximale ». Le leader de la révolution islamique s'est ensuite félicité de la signature d'un accord de partenariat de 20 ans entre Téhéran et Caracas visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines et a souligné que les gouvernements iraniens et vénézuéliens devaient encore renforcer leurs relations. Afin d'avoir une coopération à long terme, il est nécessaire de poursuivre et de mettre en œuvre régulièrement des accords déjà conclus, a souligné l'Ayatollah Khamenei. Le leader de la révolution islamique a également salué la position anti-sioniste Maduro, la qualifiant de très authentique et courageuse. Au cours de la réunion, à laquelle assistait également le président iranien Ebrahim Raisi, le président vénézuélien a remercié le soutien de l'Iran au peuple de son pays dans sa dure bataille contre les pressions américaines. Il a évoqué la situation économique désastreuse à laquelle est confronté ces dernières années son pays et a déclaré que les États-Unis avaient entamé une guerre d'usure progressive et une guerre hybride contre Caracas. Cependant, le Venezuela a réussi à affronter pleinement l'agression américaine par la résistance et à tirer parti des opportunités développées à la suite des sanctions contre le pays, a déclaré Maduro, ajoutant que le Venezuela se trouve maintenant dans de meilleures conditions par rapport aux années précédentes. Il a également noté que le Venezuela est en train d'élaborer une feuille de route précise pour approfondir la coopération avec l'Iran dans divers domaines, notamment la science et la technologie. La 42e brigade des unités de mobilisation populaire Ashtal Shabi d'Irak a déjoué le 22 juin un complot criminel du groupe terroriste Daesh pour cibler des civils dans le sud du gouvernorat de Salahuddin. La brigade a trouvé deux engins explosifs placés dans le district de Sayed Gharib, près de la ville de Samara, destinés à cibler les habitants du district avant que les militaires ne les démantèlent en toute sécurité. Le commandant des Ashtal Shabi de l'opération Samara a mis en garde depuis le 3 mai contre les tentatives occasionnelles de Daesh d'atteindre des lieux saints dans la ville de la province de Salahuddin et a appelé les forces sous son commandement à être en pleine préparation. Cela intervient alors qu'un convoi logistique de l'armée américaine a été pris pour cible à Salahuddin dans le nord de l'Irak. Une source de sécurité irakienne a déclaré qu'une bombe en bordure de route a explosé dimanche après-midi sur la route d'un convoi logistique de la coalition américaine dans la province de Salahuddin. La source sécuritaire irakienne a souligné que l'explosion n'avait fait aucune victime. C'est dans ce contexte que deux soldats turcs ont été tués dans une opération antiterroriste en cours dans le nord de l'Irak, a annoncé aussi dimanche le ministère de la Défense nationale. La Turquie viole depuis longtemps l'intégrité territoriale du nord de l'Irak en prétendant combattre le PKK et en menant des opérations dites de contre-terrorisme. Des sources d'information ont rapporté samedi 11 juin que les forces de défense saoudiennes et françaises ont lancé un exercice militaire conjoint intitulé Santol 2 dans le nord-ouest du Royaume. Selon ces sources, les forces terrestres saoudiennes et les forces armées françaises se sont entraînées ensemble pour augmenter leur préparation au combat et acquérir plus d'expérience sur le terrain. Le commandant adjoint de la zone nord-ouest pour les affaires opérationnelles, le général de division Khalid Ben Mohamed Al-Hashrami, a déclaré que l'exercice de plusieurs jours avait pour but de renforcer les liens de coopération et d'action conjointe et d'échanger des expériences dans les domaines militaires, ce qui contribue à élever la capacité de combat militaire et une coordination accrue entre les forces armées saoudiennes et françaises. Les équipes auraient utilisé à la fois des munitions réelles et des simulateurs lors de l'exercice. Selon le rapport annuel sur les exportations d'armes présenté par le ministère français de la Défense, le régime saoudien a été le premier client d'armes françaises en 2020. La vente d'armes françaises à l'Arabie saoudite intervient alors que le pays continue de mener des frappes aériennes et des bombardements contre le peuple opprimé du Yémen depuis 7 ans. La France est devenue le 3e exportateur mondial d'armes en 2020. Une grande partie des armes de la France sont exportées vers des pays accusés de crimes de guerre, de violations des droits de l'homme et du droit international. Le partenariat de la France avec des pays comme l'Arabie saoudite et surtout les Émirats arabes unis est un exemple flagrant de la violation du droit international depuis des années pour poursuivre cette course aux armements. En France, avec les résultats préliminaires du premier tour des élections législatives annoncées dimanche soir 12 juin, la possibilité que le parti au pouvoir perde sa majorité absolue s'est accrue. Dans cette compétition, une partie de la coalition de gauche et verte, qui est pratiquement dirigée par Mélenchon, s'appelle la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale, NUP. De l'autre côté se trouve l'Alliance Macron, qui s'appelle Ensemble. Selon les résultats préliminaires du premier tour, environ 53% des électeurs éligibles se sont retirés de l'élection. Ainsi, la participation des Français risque d'être encore plus faible que lors des élections législatives de 2017. Le second tour des élections de la semaine prochaine déterminera si la coalition dite Ensemble, basée sur le parti au pouvoir et les partisans d'Emmanuel Macron, obtiendra la majorité absolue ou la NUP dominera l'Assemblée nationale. Il est clair qu'à l'issue du second tour des élections, la coalition des partisans de Macron n'atteindra pas la majorité absolue de 289 sièges dans le Parlement français. C'était la première fois dans l'histoire de la Ve République française que le parti pro-présidentiel n'était pas ouvertement en tête à l'issue du premier tour du scrutin parlementaire. Non seulement Macron ne profitera pas de sa victoire, mais il passera son second quinquennat sous menace de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Bien qu'il semble que Macron ne sera plus obligé d'élire un premier ministre de l'opposition, il fait face à de sérieuses difficultés dans la mise en œuvre de ses plans dans les cas où l'approbation parlementaire est nécessaire. Depuis 2002, éclipsé par l'élection présidentielle qui précède de quelques semaines, les élections législatives souffrent d'un désintérêt croissant des Français. En 2017, lors du premier tour des élections législatives, l'abstention avait atteint 51,30%. La Russie a demandé aux États-Unis d'expliquer leurs activités biologiques militaires dans certains anciens pays soviétiques. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré dimanche que les États-Unis devaient remplir leurs obligations en vertu de la Convention sur les armes biologiques, CABT, qui est essentielle pour la sécurité internationale. La Russie prévoit de tenir des consultations avec d'autres membres de la CABT au sujet des mesures pour renforcer le contrôle des activités menées par les États-Unis dans des laboratoires biologiques de l'espace post-soviétique, selon Mme Zakharova. Au cours d'une opération militaire spéciale en Ukraine, l'armée russe a découvert que des laboratoires biologiques financés par les États-Unis menaient des recherches sur des virus dangereux, selon le ministère russe de la Défense. La partie russe a à plusieurs reprises exhorté Washington à expliquer à la communauté internationale l'objectif de ces établissements. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Une bombe nucléaire iranienne est mieux qu'une guerre contre l'Iran, dit CNN. Biden a épuisé toutes ses cartouches face à l'Iran, qui va droit vers la bombe, mais il y a pire qu'un Iran nucléaire. Le pire serait le fait d'entrer en guerre contre l'Iran, écrit CNN qui ajoute. Alors que les options de Biden s'épuisent, l'Iran est plus proche que jamais de la bombe nucléaire. Les tensions de longue date sur les capacités nucléaires de l'Iran ont peut-être atteint un point de non-retour cette semaine, poussant le Moyen-Orient dans des eaux inconnues. Téhéran a accéléré l'enrichissement d'uranium à un rythme jamais vu depuis la signature en 2015 d'un accord historique qui avait convaincu l'Iran de limiter l'enrichissement d'uranium en échange d'un allègement des sanctions avant que l'ancien président américain Donald Trump ne se retire de l'accord en 2018. Lorsque Trump s'est retiré de l'accord nucléaire en 2018, il a décidé de réimposer des sanctions punitives et écrasantes pour affecter l'économie iranienne. En fait, l'administration américaine savait à l'époque que Téhéran était toujours attaché à l'accord. Mais Trump, qui était contre de nombreuses politiques de l'ère Obama, a prétendu que la République islamique d'Iran continue sa politique interventionniste au Moyen-Orient à l'appui de ses forces locales et qu'il a tenté de démanteler l'accord nucléaire, indique le rapport de CNN. Le président Joe Biden, qui était un farouche opposant à la soi-disant campagne de pression maximale de Trump contre l'Iran, a relancé les pourparlers lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais la politique de Biden n'a jusqu'à présent été efficace. Étant donné que les États-Unis ont déjà imposé des sanctions à l'Iran sous l'administration Trump, les options de Biden sur le programme nucléaire iranien sont terminées. Les sanctions ont porté un coup dur à l'économie iranienne, certes, mais ne l'ont pas anéanti et il s'avère que l'Iran deviendrait progressivement résistant aux sanctions économiques. L'assassinat par Israël des responsables iraniens de haut rang ces dernières années, y compris un scientifique nucléaire, n'a pas non plus réussi à ralentir l'enrichissement d'uranium dans ce pays, reconnaît CNN, qui revient au bout de compte sur la perspective d'un clash militaire avec, en perspective, de supposées frappes contre les installations nucléaires iraniennes et de mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une action éventuelle pour les États-Unis. La guerre contre l'Iran ne peut détruire son programme nucléaire. Mais elle peut ouvrir les portes de l'enfer pour toute la région et pour les Américains dans la région.